Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue, on est le lundi 1er juin. Et oui, on commence le premier jour du mois de juin en espérant qu'on va arriver jusqu'à la fin du mois de juin. Oui, parce qu'on a pris un peu l'habitude au mois de mai avec les ponts, les fériés, les trucs comme ça. Ah, c'était cool hein, cette année. Hein. L'année prochaine, on va moins rigoler. Ça va être des samedis l'année prochaine, donc on n'aura plus rien. On en a deux la semaine l'année prochaine. Mais cette année, hein, pont, week-end de 3 jours, petit pont de 4 jours. Ah, c'était bien. Bah oui, bah, tout le mois de juin, ça va être travail. Hein. Il n'y a pas un jour où on peut se reposer. Hein. Il va falloir attendre le 14 juillet, ça va être long. Un mois et demi. Hein. Eh bien, écoutez, d'ici là, on va vous parler de bouquins. Et on va espérer que vous en trouviez un, ou voire deux, voire plusieurs, à caler dans la valise pour les vacances de cet été. Parce que, bon, quand il commence à faire vraiment bon, on peut se caler sur une chaise longue, sous le parasol, lire tranquille avec un petit verre à côté d'eau ou une grenadine, mais mettez un cache parce qu'il y a les bestioles qui traînent. On va commencer en musique, comme d'habitude. Alors, la programmation, je vous le dis tout de suite, n'est pas de mon fait, c'est la fête du lutin. Voilà, le lutin a décidé de mettre les chansons. Il m'a dit, ouais, tu vas voir, ça colle ou ça dénonce. Pas sûr de ça. Moi, quand j'ai vu la première titre de la chanson, j'ai dit, mais il la connaît pas celle-là. Il m'a dit, bah bon, tu connais pas celle-là. Tu vas, pas du tout. Je connais le chanteur, mais je connais pas la chanson. Alors, on va commencer par C'est Jérôme. Ah, bah oui. Ah, non, mais c'est le lutin qui a choisi. Vous imaginez bien que j'aurais pas choisi ça. Voilà, on va commencer avec La petite fille de Bretagne. C'est sûr que ça a un rapport avec le livre. Ah oui, bravo. Voilà, C'est Jérôme, La petite fille de Bretagne. Je l'ai jamais entendu. Je vais l'écouter pour la première fois. Il m'a même pas fait écouter la chanson. Ça m'inquiète.
Il y a du vent sur la plage, la petite fille de Bretagne, elle a sûrement pris froid, elle est pas là. Elle est pas venue, dommage, la petite fille de Bretagne, qui regardait les vagues avec moi. Les bateaux sont plantés là-bas. D'un village, il y avait des goélands. La petite fille de Bretagne venait souvent. Elle parlait de voyage dans ses yeux d'océan. Je voyais des rivages de sable blanc. Les bateaux sont plantés là-bas. Déjà le vent s'éloigne des rivages de Bretagne. Je caresse les nuages de temps en temps. Je me souviens en images des coquillages brûlants. La petite fille de Bretagne avait 15 ans.
Bon, bah écoutez, c'était C'est Jérôme avec La petite fille de Bretagne. Et puis, on va dire que c'était bien dans le ton. Bravo. Enfin, côté bignou, machin, voilà. Alors, on va parler d'un livre qui s'appelle Le lit clos de Sophie Broca, qu'on m'avait recommandé. Alors, c'est un roman qui est vraiment très agréable, qui est assez poignant quand même, notamment pour le combat de ces peines sardines et du combat des femmes en général dans les années 20. Alors, on pourrait bien entendu réduire cette histoire-là à une histoire d'amour, mais ça va vraiment au-delà de l'histoire entre Rose et Louise d'ailleurs. Alors, on est pendant ces longues semaines de la fin de 1924, pendant lesquelles, au moment de Noël, certaines ouvrières, enfin toutes les ouvrières des sardinières, des usines de sardines, qui sont oppressées par le patronat et par les contremaîtres et contremaîtresses qui vraiment les pressurisent énormément, vont lutter pour une meilleure vie dans son ensemble. Elles vont demander un franc par heure, ce qui n'était pas non plus extravagant, mais qui à l'époque était niette pour les patrons. Et donc elles vont former un groupe de résistance féministe, sans qu'elles s'en soient véritablement au courant, elles sont pas vraiment sûres de ce qu'elles font, mais face au poids de la tradition, de l'église, de la société patriarcale qui les écrase dans leur velléité personnelle, en fait en gros elles appartiennent à leur mari, elles sont là pour faire des gosses, s'occuper de la maison et ferme ta gueule, elles vont un peu se rebeller et surtout marcher sur les traces de ces femmes qui avaient déjà fait une grève en 1905 pour obtenir en fait une petite augmentation de salaire de l'époque. Alors c'est un roman qui parle aussi de lutte, qui parle du communisme, qui parle de Douarnenez, qui est ce fief qui a changé beaucoup de choses, et notamment cette grève-là. Mais c'est aussi l'histoire de Louise, qui est une jeune femme volontaire, qui a une voix politique et qui a une voix OIE politique et une voix OIS envoûtante, qui décide de se rebeller, qui se démène pour changer la vie, les vies des gens. Et de l'autre côté, vous avez Rose, qui est une jeune fille paysanne, qui est très pieuse, qui vient de perdre sa maman en couche, qui est partie à l'usine pour aider son père, donc qui a 4 enfants à élever, dont elle. Et Rose va partager un temps sa vie avec l'athée et très révolutionnaire Louise. Alors petit à petit, par petites touches on va dire, Sophie Broca évoque les semaines de lutte, la vie quotidienne des femmes comme des hommes, des sardinières comme des marins ou des paysans. Les affres de la société de l'époque, les peurs, les deuils, les traditions, les obligations, et ceci à chaque fois, que ce soit du côté homme comme femme, hein. Elle fait pas uniquement un seul plaidoyer. Que ce soit Rose qui veut et qui aspire à une vie meilleure que ses parents, qui veut avoir des enfants, qui veut avoir une vie ordinaire, qui veut avoir une vie correctement sous l'égide du curé, ou Louise qui, elle, rêve plus grand, qui rêve de liberté des femmes, qui rêve de Paris, qui rêve de rester dans cette espèce de tourbillon complet. Et quand elles vont être séparées par la vie, on va dire par leur vie, elles vont tenir un journal jusqu'en 1928. Et donc nous, on va suivre dans une deuxième partie, une autre partie, justement en alternance, leur vie après le fait qu'elles ne se sont pas revues. Donc Rose, elle, décide à l'issue de ces 5 semaines de grève et de privation de rentrer dans le rang, en tous les cas dans son rang, comme elle l'estime. Elle va se marier et elle exprime aussi l'évolution de la pêche à cette époque, c'est-à-dire son mari est pêcheur, il va pêcher au loin, les conditions de vie d'une femme de l'époque, surtout de vivre dans la promiscuité avec sa belle-mère et toute la clique. Et Louise, de son côté, a fui à Paris, travaille chez une comtesse qui reçoit des politiques, des artistes de tout Paris, et elle décide de s'engager dans la cause féministe et notamment pour le droit de vote. Alors le lit clos, c'est ces lits, vous savez, fermés avec juste un pan ajouré, etc. Très typique de la Bretagne de l'époque. Ça évoque surtout les destins. Les destins brisés, les destins embourgeoisés, les destins des révoltés, des pieux, des exaltés, des amoureux ou amoureuses. Voilà, c'est une écriture fluide, très agréable, Il n'y a pas d'envolée lyrique, il n'y a pas de tape à l'œil dans ce bouquin. On emboîte le pas, si j'ose dire, un peu comme on met les sardines en boîte, dans cette époque, qui, en fait, en gros, c'est un siècle plus tôt, et qui, on voit le chemin quand même parcouru, et ce qui reste à faire, un petit peu à faire pour certains. Mais en tous les cas, vraiment, et si on a un œil un peu humide à la fin, c'est pas dû aux embruns, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un peu l'émotion qui saisit. Moi, je trouvais que c'est un roman assez poignant sur un environnement, un siècle, une partie de la vie, voilà. Et ça touche forcément à nous, puisque c'est sûrement nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères qui ont vécu ça, en tous les cas, à l'occurrence, mes grands-mères. Enfin, elles n'étaient pas sardinières, mes grands-mères, je veux dire, mais elles ont vécu cette époque-là. Et donc, forcément, ça touche à notre filiation. Voilà, donc ça s'appelle Le lit clos de Sophie Broca. Écoutez, c'est paru en livre de poche et j'ai lu, hein, donc voilà. Tout ce que je vous présente, généralement, on peut les trouver en livre de poche. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Allez, petit interlude musical, et ça, c'est le lutin qui a choisi. Alors, je dois avouer que vu ce que l'on va parler, tu as pris le parti opposé. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, j'ai décidé de faire le contraire de ce qui est dit dans le roman. Voilà, bah, c'est bien. On va écouter le chant des partisans. Vous imaginez de quel côté on est de l'autre côté. Voilà, bah, vous voyez. Ah, oh, bah, écoutez. Moi, je le laisse faire hein, quand il a des idées complètement idiotes. Enfin, non, mais celle-là, elle n'est pas idiote. Non, la chanson est magnifique. Et... c'est quand il me l'a présenté, j'ai fait, mais tu sais que ça parle de l'occupation, le bouquin. Il dit, ouais, c'est pas grave, on fera notre résistance. C'est le lutin, quoi.
Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
C'était donc le chant des partisans. Et de quoi on va parler ? De la propagandiste. Super. De l'occupation, les collabos, super. Alors, on va parler donc de la propagandiste de Cécile Desprairies. Alors, c'est typiquement, et je vous le dis tout de suite, le type d'ouvrage qui crée automatiquement soit une polémique, et je peux le comprendre, même s'il m'en faut beaucoup pour m'offusquer, vous le savez, mais ça peut créer assez de polémiques sur ce livre-là. Alors, Cécile Desprairies, qui est aussi historienne de l'occupation revendiquée, évoque dans ce roman sa famille, notamment sa mère, Lucie, qui est une fervente pro-nazie, qui est débrouillarde, sans remords, sans regrets, ni Dieu ni maître, hein, limite. En fait, elle n'a aucun regret, sauf un, la mort de son grand amour, Friedrich, qui était un Allemand. pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, bah sinon c'est pas drôle. Même quand elle va épouser donc le père de sa fille, donc le père de Cécile, bah là il est là pour le boucher un peu le trou et surtout pour racheter sa conduite à elle et à sa famille qui a profité de la situation, on va dire des années 30 à au milieu des 30 glorieuses. Alors on sent un malaise assez admiratif de la part de l'auteur dans ce roman assez court. Lucie, c'est un mystère pour beaucoup de monde. Elle maintient à flot sa famille, autant financièrement qu'idéologiquement d'ailleurs. Eux, ils vivent un peu comme bon leur semble, on va dire souvent avec une grosse impression quand même d'opportunistes et d'arnaqueurs professionnels. Oh bah si. Antisémites, eux, mais jamais, pas du tout. Par contre, récupérer des biens spoliés, travailler pour la propagande nazie, fricoter dans les soirées entre nazis et collaborateurs, bah oui, pourquoi pas. En gros, ils vous disent, bah tout à fait madame, on savait pas, on connaissait pas la situation, en fait, on est des gens simples, on n'est pas des racistes, mais bien sûr. Voilà, et c'est vraiment un roman sur l'occupation, sur la collaboration, sur l'aversion d'un groupe contre pour un autre, sur l'amour flamboyant sous l'ombre de la Vastika, si vous voulez. Alors, sans complexe, sans questionnement, sauf des détails assez futiles, en fait, elle s'accroche à des trucs complètement anodins. Alors, ça pourrait rebuter, ça pourra, je pense, rebuter beaucoup de monde. Alors, j'ai pensé, en le lisant, à tous les descendants des résistants déportés ou fusillés, aux juifs spoliés, aux massacrés, aux Français qui ont eu peur, froid, faim pendant les années de plomb. Et ça pourra très très bien être entendu. Après, pour ma part, moi j'ai détesté cette, excusez-moi du terme, de connasse de Lucie, mais en fait, je l'ai comprise. Alors, c'est sûrement dû, comme elle m'a dit, le lutin, parce que lui, il a détesté le roman, par ma connaissance de la période, notamment ma connaissance aussi sur la collaboration et sur le on va dire, le gouvernement de Pétain et la clique, et bien sûr, sur cette connaissance aussi bah, qui a engendré, comme je me suis renseignée, sur la haine des autres qui a gangréné la société française, et pas seulement au XXe siècle, mais bien avant le XXe siècle, et qui a engendré toutes les horreurs qu'on connaît, qui a perpétué toutes ces horreurs. Alors oui, le roman est peut-être un peu malsain, c'est haché, l'écriture et la formulation, on va dire. C'est quand même assez indélicat aussi, mais bah, c'est le parti pris de l'auteur. Elle est franche, elle est sans embâge, elle ne s'excuse de rien, elle n'explique rien. Sa famille, c'était des collabos et ils en sont fiers. Ils ne voient pas le problème. Il y a juste un tout petit peu de côté, un petit snobinard quand même, qui fait que... qui vit sa vie comme un tourbillon, puis tant pis si c'est ça a emporté dans le néant des millions de personnes, on s'en fout, nous on n'a rien fait, on n'a pas de sang sur les mains. En fait, elle pourrait dire le truc de sa grand-mère, ça pourrait être moi je m'entends pas le coquillard, moi j'y étais pas là, j'ai rien, de toute façon tout ce qui m'importe c'est Friedrich, mon grand amour, les autres n'ont pas compté, merci pour ceux qui ont suivi, super. Voilà, donc vraiment c'est un roman qui, je alors, qui pourra être magistral pour certains, qui seront amenés à découvrir la collaboration, l'occupation, le tout ou rien hitlérien, etc. Et véritablement à, je pense, vomir pour les autres. Moi, je suis dans aucun camp, m'en fous. J'ai choisi de le lire parce que je voulais capter le bon comme le mauvais dans un roman et dans les personnages. Et puis, comme je vous le dis souvent, il va falloir se lever très tôt pour me choquer quand même, hein, voilà, surtout sur la période. Et puis, comme disait l'autre, hein, famille, je vous ai, bah, c'est pas le cas de chez celle de Cécile Déprimi. Ils sont tous contents d'avoir collaboré. Que voulez-vous ? Voilà. Écoutez, ça s'appelle La propagandiste de Cécile Déprimi. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les Français sous l'occupation et ceux qui ont été assez heureux, hein, oh oui, quand même. Voilà. Et qui se sont dit, ah bon, nous ? Ah, pas du tout. Alors là, nous, non, pas du tout. Mais bien sûr, voilà. Et la marmotte, elle remet le papier alu sur le chocolat. Voilà, donc, écoutez, chacun ça. Mais c'est un livre à lire, voilà. Petite interview de Midical qui n'a rien à voir, mais qui parle de nature, et on va parler d'un naturaliste. Ah bah, écoutez, Michael Jackson, Human Nature, et on se retrouve juste après pour un troisième roman. Et là, on change complètement de domaine, vous allez voir.
just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does it be that way? If they say why, tell them that it's human nature. I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human nature. Why do they do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way?
Du bien hein, d'avoir un petit Michael Jackson dans les petites oreilles. Alors, c'était donc Human Nature. On va parler de naturaliste. Alors, Darwin, ça vous parle ? Ah oui, moi, j'imagine. Alors, là, ça s'appelle Darwin, le dernier chapitre de Michel Moati. Alors, oui, vous avez tous entendu parler de Charles Darwin. Alors, que ce soit lui ou sa théorie, hein, voilà. Alors, eh bien, on va le découvrir avant sa reconnaissance en tant que naturaliste, machin, etc. Alors, on est avec le jeune Charles Darwin qui va embarquer à Plymouth à bord du SMS Beagle. Et l'équipage doit, en fait, a pour mission de mettre à jour les cartes marines grâce à de nouvelles technologies en 1831. Oui, hein, premier tiers. Première moitié du 19e siècle. Et tout au long du roman, en fait, on suit, grâce aux journaux de bord de Darwin et de deux autres personnages, la vie à bord, à terre, et on découvre, en fait, les autres personnes qui sont embarquées sur ce bateau. Alors, il n'a pas le pied marin, Darwin, ce qui est quand même ballot pour un mec qui veut étudier le monde. Mais bon, il n'est pas à la fête. Alors, il trouve en plus des choses qui sont assez malsaines, notamment, il trouve assez brutaux le fait que le commandant assène régulièrement des coups à trois marins qui sont fidjiens, sans compter que il n'est pas vraiment bien compris sur sa mission. Parce que quand il commence à expliquer sa théorie sur l'évolution des espèces, ça fait pas vraiment bien recette auprès des marins et auprès de tout le monde, notamment auprès du révérend à bord qui le prend pour un hérétique et qui va distiller une sorte d'hostilité dans l'esprit de l'équipage contre Darwin. Alors l'atout de ce roman, vraiment, qui est passionnant, enfin moi je l'ai trouvé passionnante, et qui a des descriptions diverses, alors qui peuvent être longues pour certaines personnes, moi non, mais c'est comme ça que j'aime les romans, qui explique aussi le cheminement de l'esprit de Darwin sur l'évolution de sa théorie, et qui va être vu de la du point de vue aussi de trois personnages. Alors bien sûr, Darwin, hein, il y a le cartographe et le garçon de cabinet. Voilà, alors ça nous donne des dialogues et des débats assez enflammés, tu m'étonnes, sur l'évolution de l'espèce, tu m'étonnes, de l'époque. Et même si l'enquête, entre guillemets, policière, parce qu'il y a une espèce d'enquête policière en milieu qui n'est pas très intéressante, enfin en tous les cas pour moi, qui n'a rien apporté au roman, mais elle se prolonge tranquillou bilou. Ah oui, oh, tranquille bilou. Moi, j'ai trouvé que le récit de voyage était fascinant. Voilà. Alors que ça soit les défaillances, les dégradations mentales et physiques des personnages, et aussi sur le fait que Darwin a une obsession absolument incroyable à propos de sa théorie. Et en fait, on s'aperçoit que deux siècles après, elle fait toujours polémique dans certains milieux, ce qui est quand même impressionnant. Il avait quand même cette conviction absolue de pouvoir trouver et expliquer l'évolution de l'espèce. Alors moi, j'ai traversé les océans, les mers, j'ai fait escale, j'ai eu un peu mal au cœur sur le bateau, je suis un peu sujette au mal de mer, c'est quand même un peu ballot pour quelqu'un dont le grand-père était dans la royale. Voilà, oh bah c'est ballot. Bah ça dépend, hein. Si c'est une mer d'huile, ça va, si ça remue un peu, oula. Tout sous abri. Hein. Voilà, je suis au fond de cale en train de, en train de fixer l'horizon. Moi. Mais j'ai énormément aimé cette traversée, les détails, les idées, les disputes. Et même les personnages les plus détestables, vraiment, ont ajouté un plaisir de lecture incroyable. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je m'attendais pas, je sais pas à quoi je m'attendais en lisant, puisque je me suis dit, oh, un truc policier sur Darwin dans un bateau. Ah bah non, au final, je me suis laissée porter par notre ami Darwin. Voilà. Allez, c'est Darwin, le dernier chapitre de Michel Moiti, et on fait une petite pause musicale avec, on va parler d'un roman régional et on parlera après des livres de juin. Petite pause musicale, Joe Dassin, petit pain au chocolat. Ah, c'est pour pain. Ah, oh là là, tu es allé le chercher loin, ça là. Oh, mon Dieu, il a fait un choix musical, lui, je vous raconte même pas. Mon Dieu, mon Dieu.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, 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 aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est mariés. Aïe, 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 aïe Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, mieux peu comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Si peu d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.
Alors après le petit pain au chocolat, on va parler du pain noir. Oui, oui, on est allé jusque là avec le lutin. Alors, le pain noir de Georges Emmanuel Clancier. Alors, c'est le premier opus qui nous plonge dans un roman du 19e siècle, dans le Limousin. C'est un tournant de fin de siècle avec la guerre contre les Prussiens. Donc, on est autour des années 1870. Et surtout, qui parle de la condition misérable des paysans. Alors, Georges Emmanuel Clancier, en fait, a expliqué qu'il s'était calé en gros sur sa grand-mère pour écrire sa saga familiale, cette grand-mère qui lui avait parlé de sa vie, qu'il adorait et qu'il avait peur de perdre en fait un jour. Et donc il a écrit un roman à propos de sa grand-mère, même si c'était pas vraiment sa grand-mère, mais pour lui rendre hommage, et il a inventé les personnages de la famille Charron. Alors, c'est une écriture assez simple, j'ai pas dit simpliste, hein, attention, c'est simple, avec un soupçon d'élégance quand même, et il s'attache à montrer en fait tous les détails des vies de ces gens-là. Il parle des cheveux d'une mère, des habits d'une jeune fille, des peurs des soldats en devenir, parce qu'il y a quand même la guerre contre la Prusse. Il parle des veillées, il parle de la force d'un père, des affres des paysans du siècle, de ce siècle, de la fin du 19e, et aussi de cette terre, de la nécessité de survie. Alors, Le Pain Noir, c'est le premier tome sur 4, donc c'est un roman régional, mais c'est surtout le panorama social complet, familial, politique, sociétal, de cette période assez difficile, où on voit d'ailleurs percer les énormes avancées technologiques, ou enfin les premières avancées technologiques ou sociétales, et aussi les espoirs que ça lance dans la population, même si certains sont cantonnés au fin fond de leur terre, qui n'ont pas accès à toutes les informations nouvelles ou les technologies nouvelles de l'époque, hein, je rappelle. Et au milieu de tout ça, Clancier, en fait, il pose une certaine voix assez poétique dans les descriptions, dans les gestes, dans les mots. Alors, on va suivre notamment Catherine, qui au début est une gamine, qui a une vie assez difficile, qui voit le placement des enfants de sa famille, qui sont nombreux, un peu de partout pour apporter quelques sous pour nourrir les derniers-nés, en fait. Elle parle de travail, de la dureté de la vie, des tâches répétitives quotidiennes que les hommes et les femmes ont à faire, et bien sûr de l'influence qu'a la politique, qu'a la société et surtout qu'a l'Église à cette époque-là. Et la famille Charron, on les voit lutter sans espoir des fois, côtoyer la mort, les handicaps de la vie, les difficultés des métiers, les heures assez longues, les conditions difficiles de vie, de logement, mais aussi des rencontres qui vont changer leur vie, qui vont embellir à un moment donné leur vie. Et quand le premier tome finit, en fait, la vie va être bouleversée chez la famille Charron. Et donc, on va voir Cathy, donc, qui se fait jeune fille à ce moment-là, qui a une idée différente de la vie qu'elle aimerait mener, qu'elle n'imagine absolument pas pouvoir faire, mais qu'elle imagine. Et moi, je dirais que Clancier, que je n'avais jamais lu, et comme Anglade et Michelet, que j'ai lu, quelqu'un qui décrit fort bien un pays, une langue, des coutumes, des traditions, une contrée, des vies, des croyances, et la beauté de tous les paysages qui sont là. Franchement, j'ai hâte de lire la suite de ce pain noir qui s'appelle La Fabrique du Roi. Donc je le lirai au mois de juin, je vous le dis tout de suite. Alors au mois de juin, nous allons lire certaines choses parce que, bah, écoutez, il y a des petits trucs qui m'ont attiré l'œil. Alors, le premier, c'est La Franchie de Montmartre de Jean-Paul Delfino qui va revenir sur la vie de Suzanne Valadon. En fait, elle va décrire la butte, la place des peintres, les bonnes et les mauvaises rencontres, etc. Et qui va lever un voile sur la mystère autour de la paternité de son fils, etc. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est un personnage assez connu dans le Paris des années 1930 et des poussières. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Deux, c'est On a tiré sur Aragon de François Werst. Alors, j'aime beaucoup la maison d'édition Rouergue. Donc, généralement, j'ai toujours quand même un œil sur leur catalogue et ça, c'est sort en poche. Alors, c'est l'histoire, en fait, d'une balle qui claque contre la pierre de l'escalier de la butte du Lion de Waterloo. Un coup de fusil dont on ignore l'auteur. S'il n'avait pas visé un auteur, quelqu'un de célèbre, on ne s'en serait jamais aperçu. On n'aurait jamais parlé de lui. Mais la personne en question est Louis Aragon. Alors, on est en 1965 et Victor, avec un K, comme dans KGB ou Kalachnikov, comme vous voulez, est un détective privé. Il va être chargé d'enquêter sur cet attentat gardé secret et il va devoir replonger dans l'épouvantable Seconde Guerre mondiale et notamment le séisme que fut le pacte germano-soviétique. Et à l'époque, on se rappelle que Aragon a gardé la carte du parti socio-communiste, mais contrairement à Paul Nizan, par exemple. Voilà, donc c'était quelque chose qui m'avait intéressé, et c'est une période qui m'intéresse aussi, donc vous le savez, donc ça s'appelle « On a tiré sur Aragon ». Ensuite, je vais lire, alors sur recommandation, les prochains, d'un de mes amis avec sa femme, c'est d'ailleurs sa femme qui me le recommande, ça s'appelle « Hitler doit mourir » de Hans Helmut Kriegsk. On est en 1940, en juillet 1944, l'Allemagne s'enfonce dans la défaite et un groupe d'officiers veut absolument éliminer Hitler et renverser le régime nazi pour négocier avec les alliés. On le sait, Stauffenberg, qui est un héros de guerre mutilé, etc., va placer sa sacoche dans le QG du Führer. Pouf, plouf, ça explose. Les communications sont coupées et donc le roman, en fait, rentre dans le doute de cette histoire, c'est-à-dire le laps de temps où personne ne sait ce qui s'est passé après l'explosion. On ne sait pas s'il a survécu. Il y a les loyalistes et il y a la Gestapo, des Gestapo qui vont traquer les traîtres et les conjurés, etc. Chacun ses pis. Voilà, c'est à peu près la trame du roman. Écoutez, on peut s'engouffrer dans beaucoup de brèches, cette histoire-là. Donc, ça s'appelle « Hitler doit mourir » de Hans Helmut Kriegsk. Deuxième livre, c'est « Shiloh ». Ou Shiloh, comme vous voulez, mais Shiloh, de Shelby Fault. Alors, on est dans le Tennessee en 1862. Ah oui, on fait des grands écarts avec Lisa. On est donc depuis un an dans la guerre de sécession qui meurtrit le pays. Et cette fameuse bataille de Shiloh va être une des plus sanglantes. Et l'auteur raconte cette blessure profonde à travers la voix de 6 soldats des deux camps. Il s'approche au plus près de cette guerre de sécession, puisque c'est à hauteur d'homme, à propos des soldats, et donc on parle de l'absurdité des combats, de l'étrange ivresse de la cause de chacun de ces deux camps, de la détresse et surtout de la peur qui s'est emparée, et bien sûr tous les paradoxes qui sont à l'œuvre dans une guerre, notamment dans une guerre fratricide et civile. Et donc ce roman parle bien sûr du mal et du bien, mais qui se confond absolument, et de cette fameuse guerre de sécession qui a meurtri le pays et qui n'est pas finie, en gros, puisque aucun des deux camps n'a véritablement gagné. Voilà. Ah bah ça, c'est sûr. Alors, Kukum. Alors, Kukum, pardon. Kukum, c'est K-U-K-U-M. De Michel Jean. Alors ça m'a été recommandé par deux personnes qui font partie d'un club, notre club de lecture. Alors on est avec Almada qui a 15 ans, qui est tombée amoureuse de Thomas qui est un jeune inu Et elle, c'est une orpheline québécoise d'origine irlandaise. Elle va quitter les siens pour suivre ce jeune natif dans une existence de nomade. Mais évidemment, elle va rentrer dans une espèce de carcan qui est imposé aux femmes des autochtones pour apprendre la pêche, la chasse, etc. Et donc, bien sûr, au milieu de cette nature omniprésente, on va suivre son destin, que ça soit dans les bonheurs ou dans les peines de ce peuple ancestral qui a vu sa liberté de mouvement entravée par les conquérants. Quand même. Voilà, donc ça s'appelle Cucum de Michel Jean. Écoutez, je ne sais pas à quoi je m'attends, mais elles avaient l'air très emballées, donc je les suis sur truc. Et évidemment, je vais lire le deuxième tome du Pain Noir. Donc cette fois-ci, c'est La Fabrique du Roi de Georges-Emmanuel Clancier. Alors on est toujours dans la France du 19e siècle, toujours en Limousin, et la famille est accablée par le chagrin suite à la mort d'un des deux parents. Je ne vais pas vous les révéler tout. Et Catherine a 13 ans et en fait elle devient la personne référente de la charge de toute la maison. Voilà. Et donc, elle n'est pas seule dans le combat, hein. Elle a son frère et elle a des amis, trois amis. Et son père, en fait, devient tourneur dans la fabrique du roi. Ça s'ouvre sur une nouvelle période. Et elle fait la connaissance aussi d'une certaine Émilienne qui est, on va dire, tellement différente d'elle et tellement d'un milieu différent d'elle. Voilà, donc c'est le temps de l'adolescence. Donc ça va des jeux, des travails, de l'amour, de l'amitié, des rires, des pleurs, etc. Bon, bref, du roman journal limousin, mais avec une très jolie plume de Clancier. Donc écoutez, on va continuer à suivre ses aventures et on va essayer de voir si on se trouve pas mal. Alors, on n'avait que ça à vous parler, donc du coup c'est vrai que c'est un peu court hein, le lutin, mais tu nous as préparé deux chansons. Il est bien ce lutin quand même, de temps en temps ça lui arrive d'être intelligent. Non, il en a même mis trois. Il s'est dit allez vas-y je t'en mets trois, voilà. Donc il m'a dit on va finir quand même le premier jour du mois. Je me suis dit ouais t'as raison, on va pas les attaquer tout de suite quand même parce que voilà il a fait chaud, on a failli crever, on a le cerveau qui a molli complètement. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été complètement abattue pendant 3 jours. Hein. Ah, il fallait me voir. Une loque. Vous voyez, Jabba le Hutt dans Star Wars. Ah, c'était bon. Voilà, donc, affalé. Oh, moi, je supporte pas la chaleur. Donc, du coup, j'étais un peu mal. Mais là, on s'en est bien. Écoutez, vous arrêtez pas de gueuler depuis un mois et demi. Ah, il fait Mathieu, il fait Mathieu. Voilà, il fait chaud maintenant. Voilà. Et maintenant, tout le monde dit, ah, putain, pourvu qu'il fasse froid. on n'est jamais content de ce qu'on veut. Non, il faudrait une température constante. Voilà. 24-25, toute l'année, et 14 le matin. L'idéal sur Terre. La nuit, vous dormez bien. La journée, il fait beau, il fait soleil, il fait pas mauvais, il fait bon et tout. Vous pouvez sortir en t-shirt et tranquille. Voilà, ça serait bien, ça. Ouais, mais non. Ce pays n'existe pas. S'il existe, on va tous y aller. Hein. Enfin, moi, en tous les cas, je prends le premier billet. Hein. Je me casse, hein, je vous le dis tout de suite. Écoutez, on va écouter deux musiques. Alors, la première, on va passer Léo Ferré, Joli Môme. On se retrouve juste après Joli Môme pour enquiller la deuxième et après la troisième. Voilà, parce que, quand je vous dis que... Ah, mais il est fatigant, ce garçon, il est fatigant. Allez, Léo Ferré, Joli Môme. On se retrouve juste après.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, Joli Môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, Joli Môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, Joli Môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, Joli Môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, Joli Môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, Joli Môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, Joli Môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, Joli Môme. ta barrière de froufrou fausse l'affaire, mais c'est doux joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
Alors c'était juste après, je vous le dis tout de suite, il a voulu me faire plaisir pour l'autre morceau. Si je vous dis Dépêche Mode. Oui, non, je vous dis Dépêche Mode. Écoutez, suivez quand même. Hein. Dépêche Mode, Question of Lust. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle. Voilà. Et il m'a dit, je pense que ça va te faire plaisir de les annoncer. Ben, ça me fait plaisir de les annoncer. Oh là là, Dépêche Mode, Question of Lust. Quelle chanson sensuelle, celle-là.
It's a question of trust.
Allez, vous vous occupez de ce que vous aimez, de vous, de vos proches. Nous, à Liberté FM, on s'occupe de vos petites oreilles. On se donne rendez-vous le 15 juin. Oui, oui, madame, il y aura une troisième émission ce mois-ci. Mesdames, messieurs, pardon. Ah, j'ai oublié, messieurs. Oui, oh, ça va, le lutin, c'est bon. C'est le soleil, ça lui a tapé sur le ciboulot aussi. On se donne rendez-vous le 15. Je pense que ça sera un spécial musique, 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 musique. Et on se quitte avec Alphaville, Forever Young. Ah, mais celle-ci, elle est immuable. Oui, on aurait pu mettre Don't You Forget About Mommy qui fête ses 46 ans. Seigneur Jésus, 41 ans, 41. Oh, mon Dieu, 41 ans. Mais on était jeune et beau. Allez, vraiment, moi, j'étais jeune et belle. Toi, tu étais presque pas né. T'étais né, mais t'étais pas trop vieux quand même. Hein, voilà, bah écoutez, on se redonne rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Dead or alive. Non, qu'est-ce que je raconte? Alphaville. Forever Young. Je suis plus jeune du tout. Bah, voilà, c'est la vieillesse. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Ciao.
Expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?